France Inter, il est 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le lundi 13 mai. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'heure des comptes pour les Balkany, l'un des couples les plus célèbres de la politique française, installé depuis 40 ans à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine, doit aujourd'hui répondre de fraude fiscale et de corruption. On voit ça après les autres titres, Agnès.
C'est aujourd'hui le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections européennes. La CGT réunie en congrès pour définir la ligne des trois prochaines années. Une rencontre au sommet à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Viktor Orban et puis des supporters marseillais écœurés. L'OM ne jouera pas en Coupe européenne la saison prochaine.
Les invités d'Inter ce matin, bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
La France se prépare à rendre hommage à ces deux commandos d'élite tués au Burkina. C'est le temps de l'émotion. Mais il reste aussi une polémique en bruit de fond, inconscience ou pas, des deux touristes français. La ministre des Armées, Florence Parly, dans ce studio à 7h50.
A tout à l'heure Alexandra, à 8h20, le grand entretien à l'heure des européennes. Cette semaine et la prochaine, nous recevrons tous les jours l'une des têtes de liste engagées dans la campagne. Et c'est Yann Brossa pour les communistes qui sera tout à l'heure le premier invité de cette série d'émissions spéciales. Pour le reste, vous le savez, vos questions sont attendues dès maintenant au standard au 01 45 24 7000.
France Inter.
Un moulin à Giverny, une villa aux Caraïbes, un riad au Maroc. Le patrimoine immobilier du couple Balkany est estimé à plus de 13 millions d'euros, jamais déclaré au fisc. Patrick et Isabelle Balkany vont donc comparaître à partir de cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris pour notamment blanchiment de fraude fiscale aggravée et pour monsieur corruption. Un important patrimoine immobilier donc que le député maire de Levallois-Perret et sa première adjointe auraient acquis grâce à des pots de vin. Sarah Guibaudot.
Le tribunal a prévu 6 semaines d'audience et rien ne dit que l'hospitalisation d'Isabelle Balkany pourrait le convaincre de repousser le procès. L'enquête semble avoir mis au jour un système de corruption ancien, mais les paradis fiscaux ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient. Le juge Renaud Van Rumbeck a fini par démêler les fils qui passent par la Suisse, le Panama ou Singapour et qui relient les Balkany aux villas de Saint-Martin et de Marrakech. Jusqu'à la fin de l'instruction, ils ont tenté de nier qu'ils en étaient propriétaires, alors qu'ils avaient laissé à Marrakech des peignoirs brodés à leurs initiales. Pour financer ces biens et leur train de vie, ils auraient fait appel à des entreprises qui travaillent pour la mairie ou avec Patrick Balkany. Ainsi, le promoteur pressenti pour les tours de Levallois prêtait régulièrement son jet privé au Balkany et aurait financé la moitié de la villa de Marrakech, plus de 3 millions d'euros. Un montage auquel l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, est accusé d'avoir participé. Les époux Balkany, eux, ne payaient pas d'ISF et très peu d'impôts sur le revenu. Madame récupérait même des crédits d'impôts car ils se déclaraient séparés.
Et ce n'est pas la première fois que le couple Balkany a des ennuis avec la justice, mais les électeurs de Levallois-Perret ne leur en ont quasiment jamais tenu rigueur, élus et réélus depuis les années 80, à l'exception des élections de 1995. Ils règnent sur leur ville, hier comme aujourd'hui, comme a pu le constater Julie Pietri. Reportage.
Levallois-Perret, près de 60 000 habitants, a élu Patrick Balkany pour la première fois en 83 et il est encore maire aujourd'hui, avec, malgré les affaires qui lui sont reprochées depuis une trentaine d'années, une élection au premier tour lors des dernières municipales.
Je trouve qu'on en fait trop.
Evelyne vit ici depuis 30 ans et vote Balkany.
Bon, on les accuse de fraude fiscale, aggravée, etc. Mais bon, c'est pas mon problème. Il fait beaucoup de choses pour les seniors. Il m'arrive d'aller au spectacle offert par la ville. Moi, je vote pour quelqu'un qui s'occupe bien de notre commune.
Valérie, nouvelle arrivée dans la ville, mère de 3 enfants.
Les centres de loisirs, les voyages, vous avez des tarifs hyper intéressants. Enfin, c'est pour nous, au jour le jour, on est plutôt contents de notre maire.
La municipalité de Levallois-Perret, ville la plus endettée de France, s'est gâtée ses habitants. Et Patrick Balkany, souvent soupçonné, a rarement été en fait condamné. En 95, tout de même, il écope avec sa femme de 15 mois de prison avec sursis pour avoir mis à leur service personnel 3 employés de mairie. Jean habite Levallois depuis 10 ans.
C'est un bon maire et une crapule. Les deux sont possibles, la preuve. Tout le monde le sait ici, hein, c'est pas nouveau.
Vous votez pour lui, vous ?
Ah non, quand même pas.
Patrick Balkany a déjà prévenu, malgré ce procès qui débute, il sera candidat à Levallois pour les municipales de 2020.
Et sur le banc des prévenus cet après-midi, également leur fils, Alexandre Balkany. Seule incertitude, la présence ou non d'Isabelle Balkany, hospitalisée depuis le 1er mai après une importante prise de médicaments.
Il est 7h05, c'est le début aujourd'hui, Agnès, de la campagne officielle pour les élections européennes.
Et jusqu'au samedi 25 à minuit, 34 listes vont donc défendre leur programme via les panneaux d'affichage devant les bureaux de vote. Il a d'ailleurs fallu en installer plus que d'habitude, via les boîtes aux lettres avec les professions de foi des candidats et via les médias. Mode d'emploi d'une campagne officielle avec Élodie Forêt.
13 jours pour convaincre, 13 jours pour communiquer sur les candidats, les programmes, grâce aux affiches, mais aussi aux professions de foi et aux spots diffusés sur les radios et télévisions publiques. 3 minutes au minimum pour chaque liste, rajoutez à ça 2 heures qui sont réparties selon le nombre d'élus au Parlement national et européen. Enfin, le CSA a attribué 1h30 de passage d'antenne en fonction de la présence plus ou moins massive dans les médias ou encore la contribution au débat politique. Résultat, une exposition maximum pour les marcheurs, 55 minutes, devant le RN, 48 minutes, et les LR, 38 minutes. Des spots dont le tournage a été pris en charge par l'État, contrairement aux affiches et aux bulletins financés par les partis. Certaines listes n'ont d'ailleurs pas suffisamment d'argent pour être présentes partout. Pour voter pour elles, il vous faudra alors imprimer vous-même un bulletin. Attention, sur du papier, 70 grammes pour qu'il soit valide.
Et ce matin, le Premier ministre entre en campagne. Dans le Figaro, Édouard Philippe, ex-Les Républicains, fustige les postures politiciennes de son ancien parti et regrette le choix de certains élus macro-compatibles d'être revenus dans le giron LR. Dans cette interview, Édouard Philippe évoque également la réforme de la fonction publique discutée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30. La dernière journée de mobilisation d'ailleurs contre cette réforme, jeudi dernier, avait vu tous les syndicats défiler main dans la main, fait rarissime. Et c'est bien la stratégie syndicale qui est au cœur du 52e congrès de la CGT qui s'ouvre aujourd'hui à Dijon. Si Philippe Martinez devrait être réélu, il est le seul candidat à sa succession. Le congrès a jusqu'à vendredi pour définir la ligne à suivre pour les 3 prochaines années. Sarah Lemoine.
Mauvaise passe pour la CGT. En l'espace de 2 ans, elle a perdu sa place de premier syndicat au profit de sa grande rivale, la CFDT, d'abord dans le secteur privé, puis dans la fonction publique. Le nombre d'adhérents, lui, ne cesse de s'effriter. Ils étaient 653 000 fin 2017, ce qui veut dire que 42 000 ont rendu leur carte depuis 5 ans. Devant l'association des journalistes de l'information sociale, Philippe Martinez, seul candidat à sa succession, a reconnu une part de responsabilité. Les gilets jaunes sont le reflet de tous nos déserts syndicaux, dit-il. Inquiet pour l'avenir, il appelle la base à changer de regard sur les nouvelles formes de travail et surtout à défendre tous les travailleurs, quel que soit leur statut.
Un auto-entrepreneur, ce n'est pas un ennemi de la CGT. Il faut un peu se bousculer en interne. On a besoin d'une CGT qui est encore plus présente aux côtés du monde du travail. Peut-être une CGT un peu moins institutionnelle.
Mais lors de ce 52e congrès, Philippe Martinez va devoir aussi composer avec ceux qui l'accusent d'être trop mou, trop réformiste, pas assez revendicatif. Les tenants d'une ligne dure qui prône le retour à un syndicalisme révolutionnaire face à un recul, disent-ils, des acquis sociaux.
Un nouveau rapport qui sème le doute sur la dangerosité du glyphosate, un rapport de 16 sénateurs qui affirme qu'aujourd'hui, aucune étude ne prouve le caractère cancérogène de cet herbicide. Les associations telles Génération Future crient au scandale. Explication dans le journal de 8h.
Il est 7h08, Agnès. Donald Trump reçoit aujourd'hui à la Maison Blanche l'un de ses rares admirateurs en Europe.
Et c'est le Premier ministre hongrois Viktor Orban qui va pouvoir s'entretenir en tête à tête avec le président américain. Viktor Orban qui espère bien, Valérie Krova, tirer bénéfice de cette entrevue.
C'est peu dire que Viktor Orban et Donald Trump ont des valeurs communes. Les deux hommes utilisent la même rhétorique populiste, anti-migrant et partagent la même détestation à l'égard de la presse. Une proximité idéologique qui a conduit le Premier ministre hongrois à qualifier Donald Trump d'icône. En délicatesse au niveau international, depuis sa suspension du Parti populaire européen pour ses propos europhobes, Viktor Orban a tout à gagner de cette visite outre-Atlantique pour Rob Berchinski. Il est l'un des vice-présidents de Human Rights Watch.
La principale chose qu'il souhaite, c'est une validation de sa plateforme politique. Il veut pouvoir retourner en Hongrie et dire au peuple hongrois que le président et le gouvernement américain soutiennent ce qu'il fait dans le pays. Et tout indique que c'est exactement ce qu'il va obtenir. Il lui sera très utile de recevoir cette validation du président Trump.
Trump.
Recevoir le blanc-seing de Donald Trump à 2 semaines des européennes serait pour Viktor Orban une aubaine, lui qui est tenté de prendre la tête d'une coalition de partis populistes après le scrutin du 26 mai.
Et pendant ce temps, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a décidé de faire un détour par Bruxelles pour discuter notamment de l'Iran avec les Européens avant de se rendre à Sotchi pour dialoguer avec Vladimir Poutine. Les chirurgiens français font un inquiétant constat. Plus de la moitié d'entre eux estiment ne pas être préparés à des situations d'attentat. C'est l'Association française de chirurgie qui lance l'alerte après une enquête. Un constat alarmant, Véronique Julia.
Il exerce depuis 38 ans, il opère chaque année des centaines de patients et pourtant il le dit, si ma ville était touchée demain par un attentat d'ampleur, je ne saurais pas y faire face.
Je serais un peu comme une poule qui vient de trouver un couteau.
Le professeur Denis Collet est chef de service de chirurgie œsogastrique au CHU de Bordeaux.
Il y a un tas d'éléments qui sont vraiment spécifiques à la traumatologie viscérale d'urgence que je ne connais pas, qui ne m'ont pas été enseignés et d'ailleurs je n'ai jamais vu de plaie par balle. Je ne sais pas à quoi ça ressemble.
Évidemment, ces connaissances d'autres chirurgiens peuvent les avoir. Mais en cas d'attaque massive avec beaucoup de victimes, il faudra beaucoup de médecins. Et le sondage le dit, la plupart ne sont pas prêts. Les plans blancs qui doivent être organisés chaque année dans les hôpitaux pour simuler une attaque ou un événement grave n'associent pas systématiquement les chirurgiens à l'exercice. Et la formation des médecins français ne prévoit pas de module obligatoire en traumatologie. Pire, constate le professeur Paul Ballandreau, chirurgien à l'hôpital militaire de Toulon, la réforme des études de médecine va conduire à spécialiser de plus en plus chaque chirurgien sur un seul organe.
Ça peut nous inquiéter pour la traumatologie parce que celle-ci est transversale. Ne pas se contenter juste de l'abdomen, du thorax ou des membres inférieurs.
Petite consolation malgré tout, la réforme prévoit une formation optionnelle en chirurgie de guerre et de catastrophe pour la rentrée 2020. Un premier pas mais qui sera limité à une 50aine de médecins formés chaque année.
Et puis 3 ans après un premier rapport, le constat reste le même. Les étrangers malades ont souvent du mal à se faire soigner dans notre pays, selon le défenseur des droits, aussi bien les étrangers en situation régulière que pour ceux en situation irrégulière.
Lille qui rit, Marseille qui pleure.
En battant les Bordelais 1-0, les Lillois ont assuré hier soir leur qualification pour la Ligue des Champions. Grosse ambiance donc hier soir au LOSC et grosse colère des supporters marseillais. L'OM battu 3-0 au Stade Vélodrome par l'Olympique Lyonnais ne disputera la saison prochaine, ni la Ligue des Champions, ni la Ligue Europa, d'où une fin de match très agitée, Tony Cellier.
Oui, dès le coup de sifflet final, des directions d'émission tombent des tribunes du Vélodrome. Dans les dernières minutes, déjà en bas du virage nord, des supporters essayent de forcer les grilles pour rentrer sur le terrain. Stadiers, policiers forment un premier cordon de sécurité sur le parvis. Déception générale.
Moi, je suis écœuré de tout ce qu'ils ont fait cette année, l'OM. C'est tout à mettre à la poubelle.
Déception totale.
Tout à coup, un mouvement de foule. Plusieurs dizaines de supporters retournent à l'intérieur du stade. Les grilles se referment derrière eux. Panique générale, car à l'intérieur du stade, les policiers évacuent justement à coups de gaz lacrymogène. Et la scène se répète très vite sur le parvis. Quelques jets de canettes, des insultes, des bombes agricoles. Le bus lyonnais avait déjà été caillassé avant la rencontre. Une vitre brisée, mais pas de blessés. Et ce contexte, les Lyonnais, de toute façon, l'avaient anticipé. Ils comptaient bien même en faire un atout, à l'image de l'ancien Marseillais, Jérémy Morel.
Oui, on savait que le contexte était particulier. On savait que ça allait être compliqué au départ, mais si on arrivait à inverser justement cette tendance, elle jouerait plus en notre faveur qu'en notre défaveur.
L'OM n'a plus que les yeux pour pleurer.
Ils viennent chez nous, c'est même pas déception, c'est humiliation.
Reportage de Tony Cellier et Lyon n'est plus qu'à une victoire de la Ligue des Champions.
Merci Agnès Soubiran.